Derrière chaque grande boîte, il y a un grand produit. Derrière chaque grand produit, il y a des gens talentueux, passionnés et ambitieux.
Oh, that music to my ears.
On les appelle Product Manager, CPO ou Product Leader.
Oh, yes, yes.
Quel que soit leur titre, ils ont tous la même mission. Devenir la clé de voûte de leur entreprise à la croisée du design, du business et de la tech pour créer les futurs produits indispensables de demain.
Well, that's excellent.
Clé de voûte, c'est le podcast des products pour les products. Chaque semaine, je te fais passer un moment aux côtés des meilleurs leaders du produit français. Avec une mission, te livrer tous leurs secrets, méthodes et apprentissages pour devenir toi aussi la clé de voûte de ton entreprise.
You know what, I like that idea.
Ce podcast est rendu possible par Stellar, un collectif de top CPO qui ont participé au succès de startups comme Zenly, Sunday, Spendesk ou Blablacar.
I'm so happy.
J'ai cofondé ce collectif avec une mission, aider les dirigeants d'entreprises tech à créer les produits qui dominent leurs industries.
Oh, yes, yes.
Retard sur la roadmap, équipe désalignée, produits lents à décoller, ces problèmes, nos CPO les connaissent par cœur. Et ils débarquent à tes côtés pour les résoudre dans des formats rapides, actionnables et clés en main.
Well, that's excellent.
Si tu es dirigeant ou CPO et que tu écoutes ce podcast, c'est qu'on a très certainement des choses à se dire. On se retrouve sur wearestellar.io ou via le lien en description d'épisode.
Oh, yes, yes.
Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Lebas sur Clé de voûte. Stéphane est un des piliers de la scène produit française. Il démarre sa carrière chez SFR, où il évolue sur différents postes produits au moment de l'explosion des services sur fixe et mobile. En 2013, il a l'opportunité d'entreprendre et lance sa première start-up spécialisée dans l'analyse de données des opérateurs mobiles qu'il revend un an plus tard. Suite à cette aventure, Stéphane va enchaîner les postes de product leader dans des boîtes françaises renommées. Mythic, Betclic, Malt, Care et depuis tout récemment, Adeo. Stéphane vient sur Clé de voûte creuser son parcours et ses challenges vécus pendant ses 20 années de produits. En deuxième partie d'épisode, il nous explique comment scaler un produit dans un contexte multi-pays avant de nous livrer sa méthodologie pour faire évoluer le pricing d'un produit. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Allez, on y va Stéphane pour cette deuxième partie de ton épisode. Quel sujet tu veux évoquer ?
Alors, un des sujets qui me semble intéressant par rapport à mon expérience, hein, ma modeste expérience, c'est le sujet de comment tu peux développer et scaler un produit multi-pays. À partir d'un produit, d'une plateforme centralisée, plutôt en France, puisque c'est les contextes que j'ai connus, comment tu gères le fait que ce produit-là doit s'adapter et être déployé sur tout un tas de pays, que ce soit en Europe ou dans le monde entier.
Pourquoi est-ce que ça pose problème d'avoir un produit que tu dois développer dans plusieurs pays ?
En fait, si je reprends l'exemple des GAFAM, t'as l'impression que c'est simple, parce que en fait, ces produits-là, ils ont été développés aux US et ils se sont imposés de manière mondiale. Donc, t'as l'impression que tu vas pouvoir faire de la même chose en appliquant potentiellement les mêmes recettes. Et puis, quand t'es confronté à la réalité, en fait, tu te rends compte que voilà, notamment en Europe, c'est pas du tout la même histoire pour plein de raisons qu'on va évoquer. Tu te trouves face à des difficultés, notamment des difficultés avec les équipes locales, parce qu'en général, bon, tu déploies pas un produit, on va dire, dans ta tour d'ivoire à partir de Paris. Ce qui est peut-être la différence d'ailleurs avec les produits comme les produits US. Hein. Souvent, eux, justement, ils ont que des bureaux commerciaux avec une gouvernance qui est hyper hyper claire et hyper centralisée dès le départ, alors que dans tout un tas de sociétés françaises, tu as une gouvernance qui est beaucoup plus répartie entre ce qui peut être décidé en France et ce qui peut être décidé dans les pays en Europe.
Et c'est ce que tu vis actuellement chez Adeo, ce challenge ? Ou que tu as vu peut-être passer durant ces derniers mois ?
Alors c'est un de mes challenges principaux chez Adeo, puisqu'en fait on est en train les équipes ont construit une plateforme globale qui a vocation à être déployée dans toutes les business units d'Adeo, qui est déjà déployée dans les 5 principales. C'est un processus qui a commencé il y a 3 ans, donc qui continue à se poursuivre, avec maintenant le fait d'aller adresser des business units qui sont plus petites, des business units dans lesquelles tu as des moyens de paiement différents, des business units dans lesquelles tu as des monnaies différentes. Donc ces problématiques-là, je suis au cœur de ces problématiques-là, ouais. Et ça me rappelle en fait mes expériences passées, puisqu'en fait, déjà à l'époque chez Mythic, on opérait tous les services de rencontre du groupe Match en Europe à partir de la plateforme européenne. Et c'était un contexte qui était simple dans la mesure où en fait le déploiement en Europe se faisait par acquisition externe. Donc, en fait, tu rachetais une société, tu faisais un gap analysis rapide, tu prenais les 2-3 fonctionnalités intéressantes ou clés Et puis ensuite, tu migrais tout le monde sur ta plateforme. Ça te prenait 8 mois, mais au bout de 8 mois, tu étais tranquille, le truc était intégré. Ensuite, j'ai eu ce type d'expérience chez Malte. Donc, quand je suis arrivé, le produit était lancé en France et en Espagne. Et puis, à l'époque, je l'ai lancé également en Allemagne. Et donc ça, c'était de la croissance organique. Donc en fait, ton produit n'existe pas, tu lances et ta marque et ton produit dans un nouveau pays. Et donc là, c'est beaucoup plus difficile, puisqu'en fait, tout le travail, même si ton produit il est mature, tout le travail de construction de la marque, de la communauté, qui prend en fait un certain temps, tu peux pas raccourcir nécessairement ce temps-là. C'est pas parce que ton produit est bon et mature que tu peux gagner sur la partie acquisition et construction de ta marque.
Donc, hyper clair. Comment tu vas approcher ce sujet peut-être ? Est-ce que tu as pensé un peu des étapes qu'on peut exposer ici ?
Ouais, alors moi je le verrais un peu par les phrases que tu entends quand tu es dans une équipe produit, que tu es CPO et que tu discutes avec les pays dans lesquels tu dois soit déployer ton produit, ta plateforme, soit qui vivent déjà avec ton produit et qui essayent de te demander des évolutions spécifiques.
C'est plutôt des phrases de quoi ? De contestation ?
Des phrases de contestation.
Des inquiétudes ouais. Ok, hyper clair. C'est quoi les phrases ? Tu peux nous donner rapidement un résumé à la volée, puis on essaie de les approfondir une par une ?
Tout à fait. Alors la première, c'est en gros, tu peux pas comprendre. Ici, c'est vraiment spécifique. Ça fonctionne pas comme en France ou ça fonctionne pas comme dans tel autre pays. En fait, t'as pas compris. Moi, je vais t'expliquer comment ça fonctionne réellement ici. Culturellement, c'est différent. Deuxième, c'est en fait, on n'est pas au courant de ce que vous faites. Donc, il y a un problème de communication. Donc, voilà, on peut pas anticiper. On peut pas réellement déployer ton produit. La troisième, c'est ton produit, on l'a déployé, mais en fait, chez nous, il fonctionne pas. En fait, ça fonctionne peut-être en France ou tel pays, mais chez nous ça fonctionne pas. Donc c'est un peu le corollaire de on est différent, mais c'est une fois que le truc il est déjà lancé quoi. Et puis ensuite le dernier c'est cette espèce de distanciation où en gros c'est vos produits globaux et nos équipes locales. Donc c'est même si tu fais partie du même groupe ou des mêmes équipes, c'est le nous et vous quoi.
Ok, hyper clair.
Alors si tu reprends la première.
Tu peux pas comprendre du coup, hein, c'est ça ?
Ouais,
donc tu t'adresses à un pays étranger, j'imagine, enfin un pays en tout cas qui est pas le même que le tien, vu la phrase, et c'est cette réaction qui sort de la personne qui est située dans un pays étranger.
Exactement, c'est en fait c'est le fait que tu ne puisses pas comprendre les spécificités locales.
Mmh. Ok. Vraiment,
ça, moi, mon expérience, c'est que dans 90% des cas, il n'y a pas de spécificité locale. C'est un mirage. Donc, un, ça explique pourquoi aussi tu as les GAFAM qui arrivent à déployer le même service partout dans le monde, parce que globalement, notamment en Europe de l'Ouest, la culture elle a été quand même nivelée, et d'un point de vue culturel, d'un point de vue aussi réglementaire, il y a un certain nombre de choses qui se sont synchronisées, ce qui fait qu'en fait, la plupart des différences ont été aplanies ou annulées. Pour moi, il reste vraiment, dans les sujets qui restent des sujets de spécificité, notamment en Europe, il en reste, on va dire, 4 ou 5. T'as des choses sur le plan légal, donc même s'il y a eu beaucoup d'évolutions sur la partie RGPD, mais d'un point de vue légal, il peut rester des différences. Sur la partie fiscale, donc là il reste énormément de différences sur la partie fiscale, y compris sur la partie identification des clients pro, voilà, un certain nombre de choses où tu dois mettre le numéro fiscal du pays pour pouvoir t'inscrire sur ton service. Il y a les moyens de paiement. Donc ça, c'est marrant parce que les moyens de paiement, tu pourrais te dire, bon, ben, la carte bancaire, c'est...
J'ai un exemple pour ça, de filet qui est mis en tête si tu veux après.
Ouais.
Moyen de paiement, oui.
Moyen de paiement, donc il y a des pays sur lesquels PayPal est le plus important. Il y a des moyens de paiement spécifiques en Pologne, en Allemagne, au multibanco au Portugal. Enfin voilà, avec des cinématiques de paiement réellement différentes. Hein. C'est pas juste je me connecte à un moyen de paiement classique, je m'authentifie. Donc ça reste un point hyper important. Et le dernier, tu as des différences en termes de business model. Donc moi, je l'ai connu chez Mythic. Tu avais des business models différents entre les pays du Nord et les pays du Sud.
Typiquement, tu as un exemple ?
Bah, typiquement, dans les pays du Nord, les femmes payent, comme les hommes. Dans les pays du Sud, en général, les femmes ne paient pas ou moins cher. Tu as ce type de
différence. C'est culturel, en fait. C'est une espèce de culture personnelle de rapport à la relation amoureuse, j'ai l'impression, de ce que tu dis dans le cas de Mythic, c'est ça ?
Je ne sais pas si c'est... Parce que tu vois, typiquement, sur la partie campagne de com, quand j'y étais, on a centralisé toute l'acquisition à Paris Et toutes les campagnes de com, qui étaient avant différentes pays par pays, ont été centralisées. On a fait 3 ans de la campagne avec Buzzman, Love Your Imperfection, qui était la même campagne qui était diffusée partout dans tous les pays. Et ça fonctionnait pareil.
Ah, intéressant. Okay.
Donc en fait, donc culturellement, le rapport au dating et la proposition de valeur de Mythique était la même. Par contre, effectivement, opérationnellement, en termes de monétisation, le business model était différent.
C'est incroyable ça. Hein, c'est vraiment incroyable.
Et ce qui est marrant, c'est que chez Betclic, tu avais aussi une différence entre les pays d'Europe du Nord qui jouaient pour gagner de l'argent, si je caricature, hein, mais, et les pays d'Europe du Sud qui jouaient notamment sur la partie paris sportif pour le fun, pour supporter leur équipe. Donc c'était et pour le coup, là, tu pouvais avoir le même business model, mais avec des intentions différentes en fonction des joueurs. Et c'était les mêmes différences entre pays. Tu avais toujours les pays d'Europe du Nord au sens Angleterre, pays nordique, Europe du Sud avec France, Italie, Espagne, et puis l'Allemagne qui était toujours un peu entre les deux.
J'ai un exemple pour toi sur la partie paiement que t'as évoqué, là, le critère que tu as évoqué juste avant, qui m'est venu directement quand tu l'as évoqué, c'est chez Itch. Donc Itch qui est pour info une plateforme un peu similaire, je vais aller vraiment très vite, à Uber, sauf que la cible n'est pas exactement la même. Je sais que Itch, qui est une boîte française, a voulu se lancer en Afrique. En France, tu payes en carte bancaire. Hein. En Afrique, il y a beaucoup de pays où tu payes par cash et pas autrement. C'est pas possible. En fait, il y a plein de gens qui n'utilisent pas de carte bancaire. Donc là, il y a quand même un usage du paiement qui est très différent. Il faut imaginer les contraintes que c'est de récupérer du cash quand tu es un chauffeur VS de la carte bancaire. Quoi. Je ferme la parenthèse là-dessus, mais c'est ce qui a pop directement dans ma tête.
Mais voilà. En fait, c'est un peu à l'intersection de la partie business model et moyen de paiement. Je prends un autre exemple sur Care. On faisait partie du groupe El Siro, qui est un groupe européen. Et donc, en fait, structurellement, le système de santé est différent entre le système de santé anglais et le système de santé français. Et une des principales différences vient de qui paye, en fait. Donc, en France, on va dire que c'est l'État qui paye via le remboursement des consultations. En Angleterre, c'est les assureurs privés. Donc, en fait, Souvent, en fait, tes différences, qui sont des différences vues comme ou spécificités vues comme des spécificités culturelles, en fait, n'en sont pas. C'est très lié au business model et aux moyens de paiement. Qui va payer, combien t'es prêt à payer.
Et régulation. Donc, tu disais tout à l'heure. Régulation. Ok. Et donc sur ce premier point-là, tu peux pas comprendre. Toi, c'est ça que tu dis à tes équipes, en fait, quand tu as ce challenge de multi pays, c'est de dire, écoute. Désolé, c'est pas un argument que tu peux pas comprendre, je comprends. Oui, nos pays sont différents, mais dans les faits, hormis ces critères de paiement, de législation, etc., il n'y a pas de différence. Quoi.
Ça en fait, il faut arriver à déminer cet argument, et une façon de déminer cet argument, c'est en regardant la data. Donc en fait, tu vas trouver des exemples dans lesquels la même feature, qui pourtant impacte l'expérience client, va produire exactement les mêmes résultats dans tous les pays.
Ok.
Là, on en a un exemple chez ADO. Il y a des évolutions qu'on a faites sur le moteur de recherche. Et sur la façon dont on affiche les résultats, ben en fait, on prend les mêmes incréments de la même manière dans tous les pays, alors que les propositions de valeur sont un petit peu, les offres, les niveaux de prix sont différents. Ça prouve bien que y a pas de spécificité culturelle. Et donc c'est d'ailleurs c'est pour ça que tu crées des plateformes. Si tu devais créer N produits pour N marché, il n'y a aucun intérêt à
quoi. Voilà. Exactement. Ok. C'est quoi le point 2?
Donc le point 2, c'est souvent une objection sur le niveau de communication que tu peux avoir entre les équipes centrales et puis les équipes entre guillemets locales. Donc là. Ce qui est hyper important, c'est de gérer vraiment la communication avec les pays de manière spécifique. Je prends un exemple très concret. Quand tu publies une roadmap globale, il faut que tu fasses des versions de cette roadmap-là adaptées pays par pays. Qu'est-ce que tu vas activer réellement pays par pays ? Il faut que tu fasses l'effort de t'adapter à ton audience. Il ne faut pas que tu considères que tous les pays vont ouvrir ton doc de roadmap et vont aller trier ce qui les concerne, ce qui ne les concerne pas. Non, il faut vraiment que tu fasses une vue entre guillemets, filtrés de ta roadmap, trier pour eux. Pareil, ils ont fait des demandes spécifiques, tu y réponds, tu fais vraiment un doc, on va dire, de priorisation qui est adapté à leurs demandes. Tu ne considères pas que juste en envoyant l'info, ils vont l'intégrer, tu fais des réunions spécifiques pour leur expliquer le rationnel, leur expliquer pourquoi certaines demandes ne sont pas prioritaires par rapport à d'autres demandes d'autres pays. Donc c'est à toi de faire ce job-là. Donc il y a un extra effort de communication à faire et de s'adapter à cette audience. Sinon, ça ne fonctionne pas.
Ok. Est-ce qu'il y a des rituels particuliers que tu mets en place où on en revient à la communication très classique de la roadmap qui sort un peu du sujet multi-pays tu vois, où on dit souvent que la roadmap, il faut continuer à la communiquer au sein de toute une boîte. Là, hormis ce que tu viens de dire, c'est-à-dire d'adapter et de filtrer ta version de roadmap pour l'adapter à la version locale, tu vois, d'un pays en particulier? Est-ce qu'il y a d'autres trucs comme rituels à mettre en place?
Moi, j'ai toujours été sur des rythmes de définition de la roadmap, qui étaient des rythmes à 3 mois. Ce qui me semble important, c'est de faire ce qu'on appelle un plan produit. Donc, j'appelle pas ça roadmap parce que c'est un plan produit à 18 mois. Donc, parler d'une roadmap à 18 mois, pour moi, ça n'a pas de sens parce que ce que tu fais dans 18 mois ne correspond pas à ce que tu avais dit au départ, quoi, 18 mois auparavant. Donc, l'importance de donner de la visibilité. Parce qu'en fait, ces équipes locales, souvent, elles ont du déploiement à prévoir, de la formation. C'est elles qui vont gérer justement la communication et le déploiement local. Il faut qu'elles anticipent. Donc en fait, tu ne peux pas juste rester sur une logique de gestion de roadmap à 3 mois. Il faut donner de la visibilité. Donc ça, c'est sur le long terme. Ouais. Et puis sur le court terme, il faut aussi donner de la visibilité tous les mois. Donc je pense qu'il faut, se forcer faire un update de ta roadmap tous les
mensuel.
Mois, parce qu'en fait il y a forcément un moment donné où ils sont pas forcément sur les mêmes calés sur les mêmes créneaux, les mêmes timings que toi, et donc entre deux revues de la roadmap, il faut qu'ils aient la version à jour.
Sans compter, j'imagine, les congés qui ne sont pas les mêmes, etc., etc. Où je pense notamment aux US avec Thanksgiving, qui n'est pas exactement pareil que l'Europe, qui prend beaucoup de vacances plutôt au niveau de l'été, etc. Quoi, j'imagine.
Ouais, même entre les pays européens, tu as des différences sur les vacances d'été.
Ouais, hyper clair. Quel est le troisième point?
Donc, le troisième point, pour moi, c'est la question de la performance de ton produit ou de ta feature. Hein. Une fois que tu as passé la première objection qui était « chez moi, c'est différent » et que donc tu vas déployer la même feature, le même produit dans tous les pays, on va t'expliquer que ça ne fonctionne pas dans un pays spécifique. Donc ça, il faut vraiment piloter la performance aussi de manière locale.
Une fois que tu as déployé, quoi.
Une fois que tu as déployé. Mmh. Et donc, quand je dis piloter la performance, ce n'est pas juste relever les compteurs. C'est s'assurer que, en termes de paramétrage, ils ont eu les bonnes infos, ils ont été formés. Donc souvent, tu fais de la formation initiale, mais tu ne formes pas les équipes au fil de l'eau. Faut s'assurer que l'appropriation du produit elle est complète. Il faut s'assurer qu'ils ont mis en place les process qui vont avec, parce que ton produit ne fonctionne jamais de manière autonome. Il faut s'assurer qu'il y a la bonne animation commerciale. Tiens, je prends un exemple concret. On a des OKR sur le nombre d'utilisateurs actifs sur les applications. Bon, bah, ça dépend de la qualité de ton appli, ça dépend de certaines features, de viralité, si tu crées des cartes de fidélité dans ton appli pour que les gens y reviennent régulièrement. Mais si ta business unit locale ne fait pas de campagne de communication pour dire on a lancé une nouvelle appli ou télécharger l'appli, ou si tu mets pas des affiches en magasin pour inciter les utilisateurs, les clients à télécharger ton appli, bah, il se passe rien. Mmh. Donc en fait, ça c'est un OKR qui est un OKR commun entre les équipes marketing locales et puis les équipes produits tech global. Donc, moi j'ai souvent cette objection de dire bon, en fait, on peut pas accepter cette OKR parce que en fait, ça dépend pas de nous, ça dépend aussi des équipes locales. Ben non, c'est ton job de t'assurer que les équipes locales elles vont bien mettre en place les actions de communication et que tu les aides pour ça, que tu leur donnes des éléments pour supporter ces actions de communication.
Ok, donc j'imagine que ce point est très lié au point numéro 2 qui est la roadmap, tu sais, qui est attitrée au pays en particulier.
Exactement. Pour qu'ils puissent déclencher des actions de communication, qu'ils puissent se former, etc., bah, faut qu'ils aient la visibilité. Donc, tous ces points-là, en fait, ils sont imbriqués les uns dans les autres.
Okay.
Et le dernier point, il est vraiment sur le fait de créer un mindset one team, on va dire. Hein. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle chez ADO. Et donc, je vois la différence entre les pays sur lesquels tu n'as pas d'équipe produit tech globale qui sont localisées dans ce pays. Et puis, on a des pays dans lesquels on a des équipes produits tech donc qui sont rattachées à notre plateforme. Hein, donc, on gère les budgets, on fait le management des équipes. Mais concrètement, ces équipes sont localisées. Donc, on en a en Espagne, on en a en Italie. Et ça change complètement le mindset. Tu passes d'un mindset de eux et nous à un mindset de on fait partie de la même plateforme, de la même équipe produit tech, de la même aventure. Donc ça, c'est un élément hyper important. C'est arriver à créer, on va dire, pas uniquement des relais locaux, mais vraiment des équipes locales. Et c'est hyper important. Tu as l'impression que ça va te éloigner les équipes, ça va t'enlever du contrôle et du pouvoir. Mais en fait, ce que tu gagnes en appropriation, a beaucoup plus de valeur que ce que tu vas perdre en proximité.
Tu as des ambassadeurs locaux, en fait, en fonction des pays. Si, en gros, ce que tu me dis, si je comprends bien ton message, c'est que des pays où il n'y a pas d'équipe tech et produits qui sont basés localement là-bas, tu perds un petit peu ce poids, en fait, puisque tu n'as personne qui est vraiment là, qui se sent vraiment inclus dans tout ce qui se passe au produit dans le pays où c'est piloté principalement. Quoi, c'est
exactement. Okay. Avoir juste des ambassadeurs et des relais, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment que tu aies des équipes opérationnelles qui aident à construire le produit ou un produit, de manière à ce que les gens se sentent vraiment faisant partie de la même équipe. Quoi.
D'accord, j'ai utilisé ambassadeur qui n'est pas le bon mot. Ce que tu veux vraiment dire, c'est qu'il ne faut plus penser pays, en fait. Il faut que la personne qui soit là-bas fasse partie intégrante du produit, mais qu'elle soit bien là-bas. Quoi. Je ne sais pas comment le dire, j'arrive pas à le dire vraiment, mais j'espère que les gens comprennent, en tout cas en écoutant le podcast. Il faut vraiment que ton équipe, elle s'étende sur les pays dans lesquels t'es, quoi.
Ouais, elle soit distribuée. Donc ça, des fois, ça s'appelle des centres de compétences, des fois, ça s'appelle des hubs. Tu vois, des fois, c'est juste la même équipe qui est localisée à différents endroits. Donc c'est hyper important.
Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu.
I have everything here.
Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage.
Oh, yes, yes.
Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore Clé de Voûte pour le rendre utile à ton quotidien.
Darling, this trip's an inspiration.
Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. À très vite.
I'm so happy.